Et au menu de notre club des têtes au carré, en ce vendredi, des tiques envahissantes. Roger Langlais, vous publiez donc chez Actes Sud avec Chantal Perrin, l'affaire de la maladie de Lyme. C'est la première enquête en France sur cette maladie qui vient donc des tiques. On peut parler aujourd'hui d'une véritable pandémie mondiale.
Oui, une véritable pandémie mondiale. On est à plusieurs millions chaque année dans le monde de nouveaux cas. En France, on verra, les chiffres sont très sous-estimés.
C'est ça.
Puisqu'ils sont 20 fois en dessous l'Allemagne, par exemple, qui pourtant partage avec nous des forêts.
Mais il y a une frontière quand même, on sait que les tiques s'arrêtent à la frontière.
Voilà, c'est toujours le miracle français.
C'est comme les nuages radioactifs.
Voilà, c'est ça.
Et c'est justement ce que vous dénoncez, hein, c'est ce déni de la
ce
part des autorités.
Ce déni qui laisse les malades, du coup, errer médicalement et avoir des situations qui empirent, qui deviennent terrifiantes. Donc, alors que finalement les solutions ne sont pas compliquées.
Avant de parler de tiques et de sexe avec vous dans la dernière partie, Philippe Bruneau, est-ce qu'on a attrapé beaucoup de petites bêtes avec la sexualité au fil de l'histoire,
hein? Oh ben oui, d'abord il y a effectivement la grande histoire de la syphilis quand même, ça a été 500 ans. Et une chose qui n'a pas été tellement souligné. Lorsqu'en 1980-81 apparaît l'épidémie du sida, la syphilis vient d'interrompre ses méfaits dans la dernière décennie. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose de grave dans cet endroit.
On va parler donc de ces petites bêtes, hein, pour démarrer cette émission avec les tiques. Roger Langlais, vous êtes philosophe et journaliste d'investigation, spécialiste des questions de santé publique, et donc avec Chantal Perrin, qui est réalisatrice et productrice pour la télévision, vous publiez ensemble l'affaire de la maladie de Lyme aux éditions Actes Sud. Donc c'est une enquête sur cette maladie transmise par les tiques et sur le scandale sanitaire qui se joue dans notre pays. Ça, on le découvre vraiment à la lecture du livre. Parlons d'abord de la maladie, parce que c'est une pathologie grave à évoluer. Évolution lente et qui touche donc aujourd'hui toute la planète. On le disait tout à l'heure, c'est une vraie pandémie mondiale. Des chiffres inquiétants, mais qui sont difficiles pour l'instant à vérifier.
On sent que les autorités sanitaires et politiques ont du mal à reconnaître, et on verra pourquoi, l'ampleur en fait de l'épidémie ou de la pandémie, parce qu'elle est effectivement elle est mondiale. Alors, maladie grave, oui, si on la soigne mal. Hein, ou si elle n'est pas soignée.
C'est les prises à temps, il n'y a pas de problème.
Voilà, c'est ça. Sinon, c'est relativement bénin, même s'il faut quand même suivre les choses. Mais si on intervient justement par un protocole médical conforme à ce qu'il faut faire, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que les médecins sont très mal formés à la maladie de Lyme. En France.
Comme à la sexualité d'ailleurs, hein, Philippe.
Ah,
décidément,
on se demande. Lyme et sexe, c'est pareil.
Alors bon, c'est la formation. C'est la formation, c'est pas la faute des médecins. Là, il y a un problème, on va dire, de définition de la formation des médecins. C'est dû en partie au fait que des autorités sous-estiment, voire sont dans le déni face à l'ampleur de cette maladie, à sa gravité. Donc rien ne va dans le domaine.
Vous citez un bactériologue français d'ailleurs, hein, dans le livre que vous avez rencontré à Strasbourg, suite à un congrès aux États-Unis où on annonçait des chiffres très impressionnants, justement.
Alors, aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé en 2013. Donc, un grand congrès mondial a eu lieu au mois d'août. Et résultat, les autorités américaines ont reconnu d'un seul coup qu'ils n'étaient pas à 30 000 par an.
Mais à 300 000.
Mais à 300 000, on multipliait par 10. Et quelques temps plus tard, alors ça fait la une, évidemment, des journaux aux États-Unis. On a découvert cette ampleur effrayante. Puis les conséquences, la gravité, donc, puisque c'est la plupart du temps, justement, ils ne sont pas diagnostiqués, donc pas soignés, etc. C'est la catastrophe. Et quelques mois plus tard, d'ailleurs, les autorités sont montées à 900 000. Hein, c'est-à-dire que là, on arrive dans des chiffres qui sont voisins. C'est assez drôle, assez intéressant, c'est que les États-Unis, on arrive à un chiffre énorme qui correspond aux chiffres aujourd'hui qu'on commence à reconnaître en Allemagne. Hein, c'est-à-dire de 1 à 1,5 million de cas nouveaux par an.
Ouais.
Alors qu'en France, on est à 27 000, 30 000
cas
officiels.
Ce sont des cas nouveaux dont vous parlez.
Oui, bien sûr. C'est l'ampleur du phénomène qui est sidérant.
Alors, c'est dû en partie à la prolifération des tiques, donc ça c'est important, au fait que les tiques sont de plus en plus souvent infestées, aujourd'hui 80% des tiques sont infestées. Il y a des co-infections, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la borrelia qui entraîne donc la fameuse maladie de Lyme, mais ça devient...
La borrelia, qu'est-ce que c'est ?
La borrelia, c'est la bactérie en fait qui a été identifiée comme à l'origine donc de ces symptômes, et le problème c'est qu'on a donc une co-infection très souvent, et que les tests, alors par contre là, sont complètement déficients, en particulier en France, au point que beaucoup de médecins français, aujourd'hui de plus en plus, en fait, demandent la sérologie, enfin disent à leurs patients, tournez-vous vers les Allemands, Hein. Aussi bien incroyable. Du point de vue diagnostic que du point de vue du traitement.
Donc certains Français partent, alors les Alsaciens en particulier j'imagine, parce qu'ils sont particulièrement touchés. Hein.
C'est comme ça que j'ai découvert au début, il y a quelques années, le professeur François Lallemand à la frontière m'appelle en me disant on a un problème, là manifestement un gros problème, c'est que ici en France, on a des diagnostics à peu près 20 fois moins souvent que du côté de la frontière allemande, alors qu'on a la même forêt.
C'est ça.
Donc on en arrive à conseiller à nos patients d'aller se faire diagnostiquer en Allemagne. Et puis, même pour le traitement, on a des représailles. Les autorités françaises, caisse d'assurance maladie, nous font des procès, des pressions insupportables, parce que ça représente toujours un alourdissement du budget de toujours bien soigner les patients avec des antibiotiques.
C'est toujours la faiblesse de la médecine en France, hein, puisque je suis médecin, c'est l'absence totale d'attitude de prévention.
Alors, on est complètement dans le problème, c'est-à-dire que la prévention en France est égale à zéro. Ouais.
On soigne les maladies, on ne prévient pas.
Et on se préoccupe du trou de la sécurité sociale, en fait. On a une étude très comptable, c'est ce que vous racontez, par rapport à un problème qu'on ne prend pas du tout en compte. Hein.
Alors, c'est la fameuse source de pas mal de scandales sanitaires, c'est-à-dire une gestion à vue, une gestion comptable, en fait, de la santé. Donc, pas de prévention, parce que, comme on le rappelle, si l'État ne met pas de l'argent dans la prévention, c'est pas les labos pharmaceutiques, c'est pas les acteurs économiques qui vont le faire, puisque quand vous mettez 1 euro dans la prévention, le retour sur investissement, il est de 0 centime. Ouais. C'est très simple. Et si l'État ne le fait pas, fait de la gestion donc à court terme, à ce moment-là, on va au-devant d'une gravité concernant cette maladie, mais beaucoup d'autres aussi, hein, une gravité extrême, et évidemment des dépenses de santé qui, à terme, seront absolument énormes. Parce qu'une pathologie qui se chronicise, qui s'aggrave dans le temps qu'on n'a pas soigné, à l'arrivée, ça coûte énormément. On a des malades qui sont en fauteuil roulant, qui sont mourants. Enfin, vous voyez un peu voilà. Oui. Et évidemment, on en parlera peut-être, une transmissibilité de cette maladie, puisqu'aujourd'hui, on découvre qu'elle est transmissible au fœtus. Ouais. Hein. Beaucoup de médecins conseillent de ne pas tomber enceinte si on a la maladie de Lyme. Et aujourd'hui, on a aussi un soupçon qui grandit, dont on parle là, sur la transmissibilité possible par le sang. Donc, on se retrouve là, puisqu'on découvre que les borrélies, survivent dans le sang. Hein. Donc, il n'y a pas de dépistage des donneurs. C'est ça. Donc là aussi, il y a un gros problème.
Alors, il y a quelque chose qui est quand même assez affolant, c'est que vous dites, un jour, on se fait piquer, et puis, le temps passe, on développe absolument rien, sauf que cette maladie peut se déclarer après des années, voire des décennies.
On a le même schéma qu'avec c'est une maladie neurologique à la base, c'est-à-dire que ça peut atteindre le cerveau, on a des troubles cognitifs, affaiblissement de la concentration, irritabilité, on est vraiment dans la neurologie. Plus évidemment un retentissement plus connu, donc sur les articulations, éventuellement la moelle osseuse, et puis des syndromes tels que la fatigue intense qui vous paralyse complètement, qui vous met totalement hors jeu, avec tout ce qui peut suivre derrière. Et malheureusement, beaucoup de patients qui sont traités tout simplement avec des neuroleptiques, comme s'ils avaient des problèmes mentaux, on soigne pas la cause, et certains sont même psychiatrisés, voire des enfants enfermés dans des structures psychiatriques, avec toute la culpabilité sur les parents, sur l'enfant qu'on traite de paresseux, etc. On cite des cas, on développe là des témoignages qui sont hallucinants, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation sanitaire là de déni et de méconnaissance insupportable.
Extrait d'un documentaire quand l'éthique attaque avec un témoignage.
Je vais peut-être écouter votre cœur parce que...
D'accord.
Et sinon, il n'y a pas de pour marcher, il n'y a pas de faiblesse musculaire, c'est plus une fatigabilité.
Paradoxalement, les jambes vont mieux, c'est les bras...
Chez Johanna, la bactérie transmise par la tique a notamment atteint le cœur et le système nerveux central.
Merci. Je suis allée ramasser du muguet avec mes enfants en mai 2006. Je me suis retrouvée avec une tique que je n'ai pas vue au début, une toute petite tique. Je l'ai vue seulement au bout de 2 jours quand elle était gorgée de sang. Et je suis allée voir mon médecin. Il m'a dit que c'était une allergie à la piqûre d'insectes et que c'était une infection saisonnière. Et comme j'avais mal à la gorge, il m'a donné des cachets, des pastilles à sucer.
Voilà, on voit la gravité quand même de la maladie hein, dans ces différents symptômes.
C'est une maladie qui peut devenir extrêmement grave et qui souvent s'installe de façon insidieuse. C'est-à-dire qu'on a des, c'est le problème on a des symptômes qui apparaissent, qui peuvent être violents, qui disparaissent très rapidement. Mm-hmm. Du côté des articulations, on se dit peut-être que c'est l'humidité, c'est l'âge, etc., les rhumatismes qui sont complètement, on va dire, banalisés, alors que très souvent c'est cette origine bactérienne. On a une bonne cinquantaine de symptômes hein, qui peuvent être là. Variants, etc.
D'ailleurs, dans votre livre, on a la possibilité de voir un petit peu les symptômes avec un questionnaire, hein, c'est ça qui
voilà,
a été réalisé du docteur Horowitz.
Voilà, c'est le questionnaire aujourd'hui qui fait référence vraiment pour les médecins spécialistes et qui permet de croiser les symptômes et de comptabiliser à l'arrivée la probabilité d'avoir donc la maladie de Lyme. Mais là encore, c'est quand même une affaire complexe. Et malheureusement, c'est souvent les malades eux-mêmes hein, qui, dans leur recherche, quand ils ont encore l'énergie de pouvoir le faire, arrivent à plus ou moins se diagnostiquer. On va dire le médecin est vraiment passé à côté. Et donc, ils arrivent à sensibiliser leur médecin. Ou alors, ils rejoignent une association. Il y a aussi aujourd'hui des associations qui commencent à être puissantes de malades qui font avancer le dossier, qui commencent à être reçus au ministère de la Santé. Mais
vous donnez souvent tous les contacts, hein, d'ailleurs, dans l'ouvrage de ces associations, Service Écoute, par exemple, ou France Lyme. Combien de cas en France chaque année? Combien de nouveaux cas? Vous dites, pour l'instant, c'est quoi? 27 000 à peu près?
Officiellement, 27 000, 30 000.
Et 1,5 million chez nos voisins allemands.
Et voilà.
Il y a quand même un petit problème.
Alors,
là.
La reconnaissance officielle, le chiffre chez les voisins allemands, hein, c'est du côté de 200 000. Bon, c'est déjà, vous voyez, ça n'a rien à voir. Alors qu'encore une fois, on a un biotope, enfin des forêts qui sont les mêmes. Mais les spécialistes aujourd'hui disent, c'est très simple en fait, l'érythème migrant, c'est-à-dire la rougeur annulaire hein, en forme d'anneau autour de la morsure ou qui se déplace sur le corps ailleurs, cet érythème qui est vraiment le symptôme, vraiment un des symptômes clés, c'est-à-dire on voit un érythème, il faut soigner immédiatement le malade contre Lyme. On fait même pas de sérologie, hein, même pas d'analyse du sang, directement. Donc ça, c'est ça le protocole officiel. Bon, il faut le faire. Mais l'érythème migrant apparaît une fois sur deux. Voire une fois sur trois.
Donc on peut avoir la maladie.
La moitié
sans avoir
donc des gens vont errer complètement parce que les médecins ne sont pas formés à reconnaître les autres symptômes.
Roger Langlais, Christine nous dit pour information, j'ai attrapé cette maladie à Paris, au parc de Bercy. Il me semble y avoir vu depuis quelques rares pancartes incitant à la précaution. Donc
alors
c'est
on voit
forêt,
les premières pancartes, les toutes premières. Je pense à la forêt de Sénart en particulier, envahie par les écureuils tamias que les gens rejettent dans la forêt, enfin qui sont des gros vecteurs. Aujourd'hui, on a ce problème, beaucoup de rongeurs, donc enfin les rongeurs prolifèrent. Le changement climatique, le réchauffement favorise aussi la prolifération des tiques. Hein, on a une des conséquences. Et le résultat, c'est qu'on a des tiques même aujourd'hui sur les aires d'autoroute, en bordure de route. Et on a finalement un biotope de tiques semblable à ce qui se passe aux États-Unis, avec aux États-Unis, à la différence de nous, des médias qui rappellent sans arrêt aux gens que quand ils s'arrêtent au bord des routes, par exemple, d'éviter d'aller dans les herbes ou de prendre des précautions.
Il y a même un mouvement mondial pour dénoncer le lobby américain. C'est en mai chaque année. Depuis 2013, une manifestation donc pour dénoncer ce déni. C'est
voilà,
très intéressant.
Exactement. Il faut
cas.
Savoir que le protocole officiel en France aujourd'hui, qu'il faut absolument revoir, en fait, il a été fixé par le lobby américain des assureurs privés. Hein, qui évidemment n'ont pas envie de payer des traitements. Enfin voilà, on a tout.
C'est au cœur de cette affaire de la maladie de Lyme, une enquête chez Actes Sud, question de santé avec Chantal Perrin.